Bonjour. Alors aujourd'hui, le Lot en action est à Branseille, sur le terrain de Rémi, Maric et Fanny. Nous sommes en compagnie de Pierre et Suzanne du groupement forestier Avenir Forêt. Donc ce matin, on a commencé par passer deux petites heures en forêt sur une partie du terrain boisé. Et vous nous avez initié au martelage. Mais avant d'attaquer le sujet, vous allez peut-être me dire ce qui vous a amené ici d'abord. Et comment vous avez rencontré Fanny, si vous voulez bien ?
On a connu Fanny lors d'un événement de charpentier à l'ancienne. Et c'est des gens qui aimeraient découvrir la forêt, comprendre d'où viennent les arbres qu'ils utilisent. Et si possible, même utiliser des arbres issus de forêts gérées de manière respectueuse de l'environnement et des écosystèmes. Et donc du coup, là... cet après-midi, on va aller marteler un hectare que Fanny et Marie-Queue ils viennent d'avoir en propriété. Et comme ils veulent faire du bois de chauffage mais ne pas nuire à la forêt, on va les aider à comprendre comment ça fonctionne et à marquer les arbres qu'ils veulent garder et les arbres qu'ils peuvent couper et voir un petit peu comment tout cela peut s'agencer au mieux pour tout le monde.
Et pourquoi ça s'appelle du martelage ?
Parce que à une époque, et ça se fait encore, pour marquer les arbres qui seront coupés, on martelait avec un marteau les arbres au pied de l'arbre pour être sûr de ne pas se faire piquer les troncs, pour être sûr que les bûcherons, ils ne bûcheront pas plus. Et chaque propriétaire forestier avait et a encore son propre marteau avec des initiales ou... et pour que ça soit reconnaissable en forêt. C'est plus pour des arbres de valeur, comme les chênes de qualité merin ou de roulage, où ça a vraiment une importance si on coupe un ou cinq arbres en plus ou en moins.
Donc aujourd'hui, on n'a pas utilisé de marteau.
Non, du coup, effectivement, aujourd'hui, on peut dire marquage. Donc on a des bombes de peinture écologiques quand même, le moins chimique possible. Et puis on va juste mettre des petites taches de couleur qui vont permettre aux bûcherons de bien identifier à la fois les arbres qu'il faut qu'ils coupent et à la fois les arbres qu'il faut qu'ils ne blessent pas ou qu'ils ne cassent pas quand il va couper ceux qui sont désignés.
Donc aujourd'hui, ça a consisté à leur montrer quels arbres couper ou combien d'arbres couper. Et c'est pas fait au hasard, quoi. Donc c'est en fonction de quels critères ?
D'abord, c'est important ce qui est l'objectif du propriétaire. Donc nous, quand on accompagne des propriétaires forestiers, on les questionne d'abord sur les objectifs à long terme. Comment ils s'imaginent leur forêt dans 10, 20, 50 ans ? Et qu'est-ce qu'ils veulent obtenir et extraire de la forêt ? Dans le cas de Fanny aujourd'hui, on avait conclu qu'ils veulent sortir surtout du bois de chauffe pour se chauffer et améliorer quand même leur peuplement à long terme. Et nous, on commence toujours avec une sélection positive, c'est-à-dire on s'oriente aux arbres, aux tiges d'avenir qui sont les plus beaux, qu'on va laisser, qu'on va gainer, qu'on va chouchouter pendant des années pour qu'ils gagnent en valeur, pour qu'ils aient de la place. Et après, on choisit les arbres qui dérangent cet arbre d'avenir. Et c'est là où on va marquer les arbres à couper. Donc on encercle d'abord avec une bombe d'une couleur bleue, par exemple, la tige d'avenir. Et on choisit après une ou deux arbres qui concurrencent, qui prennent la lumière à cet arbre. Et là, ces arbres à couper, on va les marquer avec une bombe rouge, par exemple, un point ou un trait rouge. Voilà, et on s'oriente toujours en avance, toujours dans une ligne, et on choisit après des tiges d'avenir, et ainsi de suite, on marque ensuite ceux qui sont à enlever autour.
Donc, comme vous l'avez compris, nous, on prône une coupe légère, ou en fait une éclaircie. Et le mode de fonctionnement qu'on utilise, nous, c'est la futaie irrégulière, dans le sens où on a toujours des arbres de gros diamètre, de moyen diamètre, des petits arbres, et puis même des arbres tout bébés qui viennent de germer de graines. Et on garde en permanence du coup une forêt sur place, c'est-à-dire qu'on fait jamais de grandes coupes, de coupes à blanc ou de coupes rases, mais ce qui permet de garder tout le temps un écosystème en bon état, d'avoir un sol qui ne va pas subir d'érosion. On essaye de favoriser un maximum d'essences différentes, et puis ça permet donc d'avoir des revenus de manière plus régulière, plus lisse. Et ça permet aussi, on réutilise les graines qui repoussent d'eux-mêmes, ce qu'on appelle la régénération naturelle, on fait des économies d'argent et puis d'énergie également par rapport à ce qui se fait dans la filière habituellement, qui est plus, on va dire, dans un esprit agricole, un petit peu brutal, on va dire.
Donc, ok, aujourd'hui vous êtes chez Fanny, mais que faites-vous habituellement? Autrement, vous êtes.
On est gestionnaire forestier. Moi, je suis artiste photographe aussi. Tous les deux, on a monté notre groupement forestier écologique il y a 4 ans maintenant. Ça consiste encore à. Rassembler de l'épargne des particuliers avec le but d'acheter des forêts et les gérer d'une manière durable et surtout écologique, humble à la nature, tout en dégageant un salaire pour nous et une petite dividende récompense pour les investisseurs, donc les propriétaires des parts sociales. Et on a commencé à 8, il y a 4 ans, donc Pierre et moi, on est associés du groupement aussi. Donc on a mis une partie importante de nos économies dans le groupement pour démarrer. Et maintenant, on a commencé avec 20 hectares de forêt dans le Cantal. Et maintenant, on est à autour de 200 hectares et 90 associés qui nous soutiennent, qui nous suivent, qui sont propriétaires des forêts. Et c'est Pierre et moi qui ont la gestion des forêts. Donc c'est-à-dire les associés, ils ont souvent aucune connaissance, juste une sensibilité pour la cause. Mais il y a aussi des professionnels, donc on a les techniciens des eaux et forêts qui ont leur travail et qui ne peuvent pas se permettre de travailler les week-ends en forêt où ce n'est pas rentable de travailler sur 1 ou 2 hectares. Des chefs des parcs nationaux en France, et il y en a un associé aussi. Donc c'est mélangé, c'est vraiment très varié au niveau des types d'associés, c'est assez varié et c'est assez intéressant de partager tous les ans lors d'une AG. On discute le bilan d'activité, le bilan financier et on discute qu'on va faire l'année prochaine au niveau des coupes, des frais qu'on va créer et on leur pose plein de questions aussi qui ne sont pas liées à la forêt parce qu'on n'est pas compétent en tout, nous on est avant tout forestiers. Et c'est assez enrichissant par rapport à leur expérience de vie et parce qu'ils viennent de tous les domaines. Donc ça nous fait plus avancer qu'on croyait à la base. Ouais. Au début, on pensait que c'était plus un empêchement ou ça peut créer des problèmes à l'échelle humaine. Mais on a bien développé ce qu'on appelle un business plan quand on a commencé le projet. Pour faire un peu le calcul, quelle surface il nous faut minimum pour dégager un salaire, pour dégager aussi une petite dividende pour les associés, et à quelle vitesse faut que ça grandisse. Et on est plutôt dans la trajectoire haute de nos calculs. Et le business plan, il met des gens déjà sur la même échelle. Donc ceux qui ne sont pas du tout convaincus de notre approche, ils ne nous contactent pas. Et ceux qui sont sur la même longueur d'onde et sont réunis, et ça fait déjà le tri. Et ça a bien marché jusqu'à présent. Ce qui fait que, pour l'instant, on n'a pas encore rencontré des conflits, des problèmes qui soient bloquants et qui ne touchent pas vraiment la cause ou la vraie idée du groupement. Donc on avance vraiment très très bien et c'est plus enrichissant qu'autre chose. Oui.
Donc la démarche, ce serait que par exemple, j'achète 3 hectares de forêt et puis je contacte le groupement Avenir Forêt et je dis voilà, j'y connais rien et je souhaiterais que vous gériez ces hectares. C'est comme ça que ça se passe?
Alors, c'est une possibilité parce que moi je suis gestionnaire forestier professionnel, donc je pourrais gérer les hectares de quelqu'un, la forêt de quelqu'un qui est propriétaire. Mais le mieux, c'est que cette personne reste propriétaire de ses hectares de forêt. Si elle veut effectivement les apporter au groupement, on ne l'a pas encore fait. Pour l'instant, on n'a groupé que de l'argent de numéraire. Parce que c'est pas évident, parce qu'on sera obligé d'échanger des parts sociales contre une forêt. Et est-ce que la personne, quand elle sort pour récupérer sa forêt, elle en est quand même dépossédée en rentrant dans le groupement? Donc forcément, il y a la question de la valeur à l'entrée et à la sortie qui se pose, etc. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Nous, le mode de fonctionnement, on va dire plus simple, c'est qu'en fait, c'est des gens qui cherchent un placement éthique, qui vont vouloir sortir leur argent de la banque bien souvent, le mettre dans quelque chose qui est bon pour l'environnement, qui se transmet bien à leurs enfants par exemple, qui va être défiscalisé, dont ils vont pouvoir jouir aussi quand ils vont vouloir venir se balader ou y passer un peu de temps. Et donc la forêt, mais quand on n'y connaît rien pour organiser le chantier, savoir qu'est-ce qu'on achète, comment on vend son bois, etc., c'est compliqué. Donc finalement, plutôt que par exemple, avec 10 000 euros, on peut acheter quelques hectares de bois, on va dire entre 10 et 1, suivant la valeur que ça peut avoir. Et finalement, ces quelques hectares, c'est pas facile, on va faire une coupe. Alors que si on met 10 000 euros dans le groupement, finalement, on a une part d'un peu toutes les forêts. Donc on peut profiter de ces 200 hectares. Avec un peu de chance, on en a une pas trop loin de chez soi. Et puis, effectivement, c'est une mutualisation, finalement, de son investissement forestier. Et puis, du coup, il profite du fait que nous, on s'occupe de toute la partie technique, des chantiers. Moi, je bûcheronne de plus en plus, de l'achat de forêt, de l'administration, de la communication. Et puis, eux, finalement, ils ont, entre guillemets, juste à en profiter, à venir une fois par an à l'Assemblée Générale. Mais d'ailleurs, c'est pas obligatoire, on vote par mail. Et à venir prendre part un petit peu, mettre la main à la pâte s'ils ont envie, une fois par an ou plus s'ils le souhaitent. Et c'est vrai que ça, c'est pratique. Et en plus, on peut également en ressortir facilement. C'est-à-dire que nous, on garde toujours de la trésorerie. Si quelqu'un veut ressortir, c'est le groupement qui va lui racheter ses parts. Donc, ce qui fait qu'on peut récupérer sa mise de départ. Alors que bon, si on a acheté une forêt, faut arriver à trouver quelqu'un à la revendre, etc. Ouais. Donc c'est plutôt ça qui attire les gens. Et puis le côté vraiment éthique, il y a un lien direct entre eux et la forêt. Tous les comptes sont hyper transparents, chaque ligne de dépense, ils peuvent le voir, ils peuvent aller voir chaque arbre, on leur fait visiter quand ils passent dans le coin, etc. Donc c'est plus ce côté artisanal dans le bon sens du terme qui leur convient, quelque chose d'un peu convivial.
Mais aujourd'hui, tous les terrains, enfin toutes les forêts ne sont pas contiguës, elles sont éparpillées.
Effectivement, oui. Donc on a 200 hectares, mais en fait c'est partagé entre 5, bientôt 7 massifs forestiers qui se situent donc dans le Cantal, où il y a donc 20 hectares de hêtres et de frênes, 20 autres hectares de pins sylvestres principalement, mais où il y a aussi un peu de chênes, hêtres, épicéas, pins laricio. On va avoir 20 autres hectares qui sont avec du Douglas principalement, mais aussi de l'épicéa, de l'aulne, du frêne, du chêne, du hêtre. Enfin, vous voyez, on essaie toujours d'avoir quelque chose d'assez mélangé. Et puis, si on a beaucoup de résineux, on va favoriser le feuillu. Si on a beaucoup de feuillu, on va favoriser le résineux pour avoir quelque chose d'équilibré. On va avoir 40 hectares en Haute-Corrèze vers Ussel, où là, on est plus sur du résineux mélangé. Donc, de l'épicéa, du Douglas, du Grandis, du sapin pectiné, et puis toujours un peu de chêne, de hêtre et autres. Et puis, on va avoir vers Limoges 10 hectares de chênais principalement, avec un peu de châtaigniers, quelques résineux aussi. Et donc, voilà. Et puis là, on se dirige vers des achats de forêts. Donc, peut-être là, bientôt 40 hectares dans le Lot. Plutôt avec du Douglas, du pin maritime, du châtaignier, du chêne. Et peut-être également 40 hectares dans le nord de l'Aveyron avec différentes essences également.
Et il y a souvent des forêts à vendre. Ce sont des particuliers qui vendent, des privés?
C'est souvent des privés. En France, il y a la particularité que la forêt est une niche fiscale très intéressante. Donc c'est souvent des particuliers, mais assez aisés, qui utilisent les achats et les reventes de forêts pour défiscaliser. Donc c'est pour ça que c'est assez souple pour l'instant, tandis qu'en Allemagne, où je suis née, ça stagne beaucoup. On ne vend pas facilement de la forêt. C'était une des raisons aussi pourquoi on a créé le groupement en France plutôt qu'en Allemagne. Voilà.
Alors là, sur les forêts qu'on a achetées, ça peut être des indivisions, où ils se retrouvent à 7-8 frères et sœurs, et puis on ne sait plus quoi en faire, donc on préfère vendre. On a acheté une forêt au Conseil Général de la Corrèze aussi, qui avait été gérée par l'ONF en irrégulier, donc on était très contents de ça. Et globalement, quand même, c'est pas facile de trouver des forêts à acheter de surface importante, parce qu'il y a beaucoup de toutes petites forêts de 1 hectare. Et nous, en gros, pour que ça vaille le coup de gérer ces forêts-là, il faut que ça fasse au moins 10 hectares d'un seul tenant. Donc là, tout de suite, on n'est plus sur quelque chose qui se trouve très facilement. Et du coup, ça nous oblige à être basé sur Brive et à rayonner grâce aux autoroutes à une heure et demie, voire deux heures de Brive pour arriver à acheter des forêts qui valent le coup, qui soient en bon état au niveau de l'écosystème, qui aient un avenir et qui ne soient pas à des prix prohibitifs non plus. Parce que des fois, il y a des gens qui rêvent un peu la valeur de leur forêt, mais...
Oui, je suis un peu surprise que l'ONF vous ait revendu de la forêt.
Alors, ce n'était pas l'ONF, donc c'était le Conseil Général de la Corrèze, mais comme c'était une forêt de collectivité, elle était du coup soumise au régime forestier, c'est-à-dire qu'elle était gérée par l'ONF. Mais l'ONF en propre n'est pas propriétaire des forêts, c'est l'État qui est propriétaire des forêts, et l'ONF n'est que le gestionnaire public des forêts de l'État.
D'accord.
Donc du coup, par contre, on a profité de ce qu'ils ont fait dans ces forêts-là pendant des dizaines d'années et qui allait un petit peu dans notre sens.
D'accord. Ouais. Autrement, je ne sais pas, peut-être tu pourras répondre à la question. En France, il n'y a pas de grand plan prévu justement pour rassembler tout ce morcellement de petites forêts. Ça a existé, ça, à une époque, je crois que c'était sous Colbert, je ne suis pas sûre.
Alors, à l'époque de Colbert, les grandes forêts appartenaient au roi ou appartenaient au seigneur, et donc on n'était pas encore dans la propriété privée comme on l'est aujourd'hui. Ça, ce n'est venu qu'avec la Révolution. Et puis il y avait des usages des forêts, mais on était plus dans des droits, donc des usages, d'avoir le droit d'aller prendre du bois de chauffe, etc. Et y a eu quand même donc. Il y a des efforts un petit peu pas de remembrement au sens agricole, encore une chance d'ailleurs, parce que dans l'agricole ça a été fait de manière un peu brutale. Mais il y a par exemple une loi qui est passée récemment qui dit qu'une personne qui vend une forêt de moins de 4 hectares doit en informer les voisins, et que si jamais les voisins veulent acheter au prix proposé, ils ont un droit prioritaire. Donc ça c'est assez intéressant dans cette histoire de morcellement. Après, c'est vrai qu'au gré des générations qui succèdent, c'est vrai que la forêt est un tout petit bout. D'un point de vue strictement économique, c'est ce dont se plaigne la filière forêt-bois en permanence dans les lois forestières successives qui sont des copier-coller tous les 10 à 15 ans. Pour autant, ce sont des plaintes en fait du secteur qu'on appelle aval de la filière, c'est-à-dire la transformation. C'est des gens qui voudraient mobiliser plus de bois, qui se plaignent qu'il y ait beaucoup d'arbres qu'on ne peut pas couper. Ça, c'est le point de vue économique. Si on se place d'un point de vue écosystème, écologique, en fait, toutes ces micro-parcelles qui sont à l'abandon sont des parcs nationaux, de fait, citoyens. Alors, parce qu'on s'en occupe pas, oui, mais ça amène une résistance, des refuges pour toute une faune spécialisée. Et je veux dire, si on se place du point de vue de la nature, c'est pas si mal.
D'accord.
Oui, surtout parce que la sylviculture en France, dans toute son histoire, a toujours coupé très très tôt les arbres. Donc il se trouve que maintenant il y a des projets qui veulent préserver les plus anciennes forêts qui datent de 1900. Une forêt qui date qui a 200 ans, elle est plutôt jeune. C'est plus quand tu as une forêt à 400 ans, 500 ans. Là, elle est vieille. Mais en France, on a vraiment du mal à trouver ce genre de massif. Donc, tant mieux qu'il y ait un morcellement. Et heureusement, en France, il y a des petits microclimats, surtout en Corrèze, dans le Lot aussi, qui font qu'on ne peut pas toujours accéder. Donc, pour la nature, elle-même, c'est intéressant.
Il faut savoir que historiquement, donc, il y a eu un minimum, entre guillemets, de la surface forestière en France. Donc à l'époque, c'était parce qu'on avait besoin de foin pour les chevaux, avant le charbon. Et il n'y avait plus que 10% de la surface française qui était boisée. Donc voilà, il n'y a pas de forêt primaire en France, c'est que des forêts qui sont utilisées, qui ont été remaniées par l'homme de manière très profonde. Et effectivement, comme le dit Suzanne, avant le charbon, on parle de à peine quelques centaines d'années, 250 ans. Donc un chêne peut tout à fait vivre 500 ans, un hêtre aussi. Donc vous voyez qu'on est quand même sur des échelles de temps où on est dans une histoire récente due à la révolution industrielle. Qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les forêts reprennent de la surface, puisqu'on est avec le tout électrique, les énergies fossiles. Donc, peut-être qu'il serait temps un petit peu de laisser passer du temps, si on y arrive à s'organiser entre générations et de faire en sorte qu'on ait des vieilles forêts, un petit peu. Le parc naturel régional de Millevaches a un programme en ce sens sur les années qui viennent, sur les forêts anciennes, justement. Oui. Les forêts qui sont restées des forêts depuis cette époque, où il n'y avait plus que 10% de forêt.
D'accord. Alors, je viens juste sur un tout petit autre registre. Ce que tu photographies, ce sont les arbres et la forêt, ou ça n'a rien à voir?
Si, ça tourne beaucoup autour des arbres, des feuillages, des branches. Mais mon thème global, général, si on peut dire, c'est ça tourne autour des structures qui nous entourent. Donc ça peut être justement la végétation, mais ça peut être aussi de l'architecture, des ponts, des minéraux. Moi, je pars beaucoup de l'idée qu'il y a des structures qui sont présentes partout, qui nous entourent et qui nous influencent d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas forcément ésotérique, mais ça peut être philosophique, politique. On a besoin une autoroute, par exemple, ça m'intrigue beaucoup, les tunnels, les autoroutes, comme structure qui guide. Mais qui permet d'avancer plus vite, mais qui empêche aussi de voir ce qui est à droite, à gauche. Voilà, je me questionne beaucoup sur ça. Mais ça passe beaucoup par la végétation, j'avoue.
Ouais, il est vrai que la structure de l'arbre est quand même particulière. Enfin, on peut se poser des questions, je me laissais supposer. C'est comment c'est possible que ça monte aussi haut, et alors que ça prend une grosse part de sa nourriture dans le sol. Donc, y a des mètres à monter pour apporter les minéraux et tout ce qu'il faut, quoi.
Ouais. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose à ajuster là-dessus. C'est que la matière organique qui constitue les arbres vient de l'air. Donc, c'est le dioxyde de carbone. Donc, dire la matière qui constitue l'arbre n'est pas tirée du sol, mais elle est tirée de l'air. Donc peut-être ça peut déjà expliquer un certain nombre de choses. Et puis quand on voit la structure d'un arbre, c'est un système de poupée russe. C'est-à-dire que l'arbre se construit une enveloppe supplémentaire chaque année sur son tuteur, qui est en fait son squelette passé des années, qui est mort des années précédentes. Peut-être plus à l'image d'une sorte de corail, même si biologiquement c'est faux, mais une sorte de structure comme ça qui s'agrège et qui prend de l'ampleur de manière concentrique. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, d'assez beau. Et puis on peut quand même souligner que ce sont les seuls organismes vivants avec les algues qui arrivent à tirer leur énergie et à construire leur corps à partir du soleil, et que nous, en tant qu'animaux, on est complètement dépendants d'eux, qu'on n'est pas capable de le faire, de rester au soleil, à ne rien manger, à ne rien boire et à pouvoir grandir comme ça. Nous, on ne sait pas faire. Et donc, du coup, effectivement, toutes les espèces animales sont dépendantes des végétaux pour leur nourriture, ou mangent des animaux qui mangent des végétaux. Donc, à un moment donné, je crois que la contemplation de l'arbre, ça a été de tout temps, et peut-être qu'il faudrait y revenir un peu. Et je plains les gens qui n'en ont pas autour d'eux dans leur lieu de vie.
Mais ce qui est intéressant au niveau de l'arbre en tant que structure, c'est que c'est une liaison entre le ciel et la terre. Et donc, ce qu'il se nourrit, c'est le reflet de ce qui se passe entre le ciel et la terre, en fait. On voit que ce qui est sur la surface, le houppier, mais on peut s'imaginer que le système racinaire prend autant de volume que ce qu'on voit dans le houppier pour se nourrir.
Comme l'iceberg.
Oui, tout à fait. Et à analyser, c'est assez beau, parce qu'il faut observer. Des fois, on tire des mauvaises conclusions, mais c'est nous, ou moi en tout cas, je trouve ça très beau dans notre travail, c'est d'observer, de tirer des conclusions sur la qualité du sol. On n'a pas encore tout compris, comment ça fonctionne. Il y a une énorme richesse dans le sol, au niveau de la faune et de la flore. L'arbre, il est en parfaite capacité d'utiliser justement des symbioses avec des champignons, avec différents organismes pour justement pousser vers le ciel. Et celui au pied, c'est le reflet aussi de ce qu'il est capable de capter comme soleil, donc la place qu'il arrive à prendre. Et oui, après, on se demande pourquoi les arbres, ils n'arrivent pas à pousser encore plus dans le ciel, mais ça, c'est le sol souvent qui limite la ressource d'eau qui est limitée. Mais c'est vrai, on n'a pas encore 100% compris le fonctionnement.
Le fonctionnement. Mmh.
Puis quand on parle de l'arbre, ben c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que, en fait, sur un arbre, il y a beaucoup d'autres êtres vivants qui se greffent. Un arbre, c'est un écosystème en soi. Il y a tout ce qui est dans le sol, il y a tout ce qui est sur l'arbre, que ce soit les mousses, les lichens, ça peut être les chauves-souris, les insectes, etc. Et puis, même si on élargit encore un petit peu, il y a des chercheurs allemands, notamment au niveau des hêtraies, qui considèrent qu'il y a tellement d'échanges de nutriments entre les différents êtres d'une forêt que globalement on est obligé de les considérer comme un super organisme, et qu'il y a tellement d'échanges de communication à la fois, voilà, de nourriture et d'information, qu'une hêtraie est plutôt un individu, enfin pas un individu mais un super organisme, puisqu'il y a des génomes différents entre les arbres, et plutôt que de considérer que c'est un arbre, parce qu'il y a une vision en fait animal centrée un petit peu, voilà. Nous on est des individus qui se séparons facilement dans l'espace, on arrive facilement à savoir quel animal est différent d'un autre, mais au niveau du végétal, ces choses se confondent, sont loin d'être aussi faciles à appréhender, et donc voilà, faut arriver à remettre en question des choses profondes pour appréhender la forêt vraiment.
Ok, ben je vous remercie, et puis je pense qu'on va passer à l'action. Hein.
C'est ça. Pour nous retrouver éventuellement, oui. Donc nous on a le groupement forestier Avenir Forêt, c'est sur, vous pouvez taper sur Google Avenir Forêt, c'est avenirforêt.com, et puis pour retrouver des photos, parce qu'il y a d'autres choses que des photos d'arbres d'ailleurs, tu as plein de choses sur ton site.
Oui, c'est Sizou, SIZOU-6BE.com.
Sizoubé.
Sizoubé.
Merci à vous.
Merci.
Merci.